Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lendemain de Purim, de la fête de Purim, cette grande fête magnifique, qui pour plusieurs raisons elle est magnifique, mais pour cette notion aussi, que non seulement c'est une fête parce que tout va bien, c'est une fête parce que on est sorti d'une situation à une autre, c'est vrai que là aussi, mais c'est plutôt ça signifie que le mal devient bien. En fait, il faut expliquer ça, que ça veut dire que le mal vient bien, est-ce qu'il devient, est-ce que le mal peut devenir bien, ou bien c'est relatif, certaines parties du mal peuvent devenir bien, ça c'est une grande discussion, mais en tout cas, ça c'est parmi les symboles de Purim, qu'une situation dramatique devienne, non seulement qu'elle s'arrange, mais au contraire, elle devienne quelque chose de très positif. Alors, on ne va pas rentrer, on est quand même le lendemain de Purim, mais cette même idée, on trouve dans notre paracha de la semaine, que c'est carrément cette idée, à tel point que la paracha, même si dans cette paracha, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de situations opposées. Donc, normalement, lorsqu'on écrit un livre, par exemple, alors, il y a des chapitres. Il y a un chapitre qui parle de, quelque part, nous donner un petit peu l'idée de quoi s'agit de la personne ou bien de différentes choses. Et ensuite, il nous met en place et nous explique les drames, s'il y avait des drames dans cette histoire. Ensuite, d'autres choses que finalement amènent vers une solution. Mais dans notre paracha, on a une paracha qui passe. C'est comme cette expression, pas vraiment de coquelane, mais elle passe d'une situation à l'autre et tout ça, elle met dans un seul paquet, si on peut dire. Ça veut dire que dans notre parasha, on parle de la faute de Vaudor. Alors la faute de Vaudor, c'était une des fautes les plus graves. Et peut-être dire quelques mots pour un petit peu donner une idée de quoi s'agit. Et puisque c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à comprendre aujourd'hui, dans nos jours, il y a des choses, le monde change souvent. Et parfois, on a du mal à comprendre la logique de l'époque. Ou nous, on pense que le monde était logique à l'époque, et parfois beaucoup plus logique qu'aujourd'hui. Et pourtant, il y a des choses qui étaient évidentes aujourd'hui, et à l'époque, et c'est pas du tout logique. C'est pas du tout logique aujourd'hui. On a du mal avec ça, comme l'exemple d'idolâtrie qu'on va parler tout de suite. Mais j'aimerais rajouter quelque chose que j'ai trouvé bien. À l'époque, je lis un article, on a chez nous un homme, un rabbin, qui était le rabbin de... Il est parti pour s'occuper de donner des cours aux filles et dans le Minnesota. Mais c'était vraiment un star, si on peut dire comme ça. Il arrivait à toucher les jeunes, il arrivait à leur parler. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est des années après, il n'habite plus en Minnesota, mais il a des idées assez fortes, assez, quelque part, il s'appelle Manis Friedman, c'est qui connaît le frère de grand chanteur qui s'appelle Abraham Fried. Donc il est... Je n'ai pas d'exemple là tout de suite pour montrer, mais il a une vision différente que les autres. Quelque part, il est dans le judaïsme, bien sûr, et même dans le chassidisme, mais parfois, il y a des gens qui osent dire, osent faire, osent dire des idées. En tout cas, il y a pas mal de livres. Parmi les livres qu'il a écrits, je ne sais pas si c'est traduit en français, mais c'est traduit en... il a écrit, à l'origine, il a écrit en anglais, mais c'est un livre qui dit... en fait, la personne qui dit « j'ai rien demandé pour être dans ce monde ». Ça veut dire qu'il y a cet argument parfois chez les jeunes. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais ici. Et donc, à partir de là, on peut avoir d'autres idées. En tout cas, il a écrit beaucoup de livres très intéressants. Mais revenons à la personne. Donc, il est parti habiter, le rabbi l'a envoyé à Minnesota. Et là, il a commencé c'était dans les périodes hippies, où il y avait ce mouvement qui était opposé à tout ce qui était normal, à tout ce qui était logique, si on peut dire comme ça. Ça correspond à mes 68, ça. Et donc, il y avait des mouvements comme ça qui contestaient ce que était jusque-là normal. Donc, lui, il est venu à ce moment à Minnesota, que là-bas aussi, ça bougeait beaucoup. Et il a organisé des choses comme Chabad organise partout. Il a organisé, à un moment donné, un Shabbat, donc un Shabbat, un repas shabbatique, ou bien même, quelque part, qu'on se réunisse. Et il y avait tous ces jeunes de la nouvelle génération qui voulaient écouter ce que le judaïsme a à dire dans ce moment tellement difficile. Donc, il s'est préparé, parce que il a essayé d'imaginer les questions. Parfois, on n'est pas capable peut-être de bien développer les réponses tout de suite. Il faut réfléchir. Donc, il s'est préparé. Effectivement, il y avait des questions très, très dures. Mais il arrivait à répondre. Les gens étaient contents. Donc, il arrivait à toucher un mille. Il s'est dit, maintenant, je connais les jeunes. Je sais ce qu'ils dérangent. Donc, je vais me préparer pour la prochaine fois, donc l'année prochaine, lorsqu'il a organisé le même titre de même sorte de rencontre, donc il s'est bien préparé. Cette fois-ci, il était vraiment armé pour répondre. Mais il était étonné que les questions de l'année dernière, c'est plus dans l'actualité. Ici, aujourd'hui, on pose, donc cette année-là, on pose carrément d'autres questions. Et comme ça durait quelques années. Et chaque fois, il a vu que ce qui était impossible l'année dernière, ça veut dire les gens qui n'ont pas compris, ils ont contesté des choses l'année dernière. Cette année, ça ne les dérange pas du tout, ils sont carrément ailleurs, ils ont d'autres arguments. Et ça montre un petit peu le monde où on vit. En tout cas, là, s'agissait des gens qui réfléchissaient, qui voulaient avoir des réponses sur les questions de la vie. Et là aussi, ça bougeait. Ce qu'on a posé comme question l'année d'avant, c'était pas les mêmes personnes, c'était d'autres personnes. C'est pas parce qu'on a répondu l'année dernière et il y avait donc on aurait pu avancer vers un autre sujet. Non, c'était carrément d'autres personnes. Et à l'époque, il n'y avait pas tous les médias qui peuvent passer. Et pourtant, le monde, la logique change. Donc, alors, on parle ici d'idolâtrie, donc dans notre paracha, que cette idolâtrie, on a du mal à comprendre aujourd'hui, même si que dans certains endroits dans le monde, et ça existe, mais nous, on a du mal à suivre cette notion d'idolâtrie. Et pourtant, le Maïmonide explique bien dans son premier chapitre, selon le premier chapitre de ce que s'appelle le chapitre des lois d'idolâtrie, qu'il explique d'où vient cette notion d'idolâtrie et pourquoi il montre comment les gens qui étaient idolâtres, en tout cas les premiers, étaient plutôt intelligents. C'était basé sur une idée scientifique plutôt, puisqu'ils ont eu une connaissance scientifique de l'époque, qui était quand même très forte, qui dépasse parfois notre connaissance. C'est un sujet à part. Donc alors, puisqu'ils ont été scientifiques, donc, et au niveau de la science, donc ils se sont trompés dans certains domaines que je ne vais pas rentrer là-dedans. Chacun peut le voir chez le Maïmonide, donc le premier chapitre de l'idolâtrie. Bien sûr qu'il y a ça en français. Mais en tout cas, dans notre paracha, on revient à ça. On est, pour dire aussi un sujet qu'on répète de temps en temps, que Dieu il a créé un monde compliqué. Notre monde, il est compliqué. Et en hébreu, on appelle le monde Olam. Olam, ça veut dire un monde, mais en même temps, il y a la même source. Dans la même source, il y a la notion de Helem. Helem, ça veut dire caché. Ça veut dire qu'il a créé un monde qu'on ne sait pas ce qu'il cache derrière. Ça veut dire qu'on ne comprend pas ce monde. Ça prend du temps à comprendre le monde. Alors, ça prend du temps, comme l'exemple très simple, on a un corps. Et qui connaît son corps sans apprendre la médecine, on ne connaît pas très bien. Il faut aller ailleurs pour comprendre ce que nous sommes. Ça veut dire qu'on est dans un système qu'on ne connaît pas grand-chose sur le monde, on ne connaît pas grand-chose sur nous. De temps en temps, avec le temps, on découvre, et après tout, il nous reste encore loin, on est loin de comprendre, il y a des choses qui changent, etc. Alors, le monde a été créé de telle manière, pourquoi? C'est comme ça que Dieu il voulait, en fait. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il a créé le monde. Alors, si c'est vrai pour le monde lui-même, qu'on ne sait pas, on ne connaît pas, il y avait des années où on n'était pas au courant qu'il y a des ondes qui passent. Aujourd'hui, on l'utilise pour la téléphonie ou d'autres. Mais on connaît pas, toujours on ne connaît pas notre monde. Alors, si on ne connaît pas notre monde, c'est sûr qu'on ne connaît pas le créateur du monde. Il est caché derrière ses œuvres. Donc c'est pour ça qu'on est dans un monde où il y a un Dieu, que Dieu il a créé le monde, et c'est Dieu qui a créé le monde. Si on veut bien, et si on cherche là où il faut, on le trouve, mais c'est un travail quand même. Il y a des gens qui sont croyants de nature, mais même ces gens qui sont croyants de nature, ils doivent travailler, comprendre. Et il y a des métiers de comprendre, de trouver Dieu dans ce monde, mais c'est un travail. Donc ou bien on est croyant. Comme ça, on croit sans comprendre. Alors, cette croyance, elle est considérée comme une croyance faible et sensible. Et ensuite, il y a ce devoir de comprendre la croyance. Et ça, c'est le devoir, la première mitzvah, la loi de la Torah, de comprendre. En tout cas, si on revient à notre sujet, donc Dieu, il a créé un monde où on ne voit pas, on ne le voit pas. On peut l'ignorer. Et pourtant, on a la possibilité de le connaître. Et l'idée, c'est que même au moment où il n'est pas là d'une façon révélée, il faut, par le moment où il s'est révélé, il faut tirer et comprendre, et tirer donc ses enseignements, ou bien ses compréhensions, ou bien tout ce qu'il y a avec ça, vers la période où il n'est pas révélé. Alors, dans notre période, donc dans la Torah, on a lu récemment le Juif, donc les Hébreux qui étaient en Égypte, et ensuite, après des années d'esclavage, Dieu se révèle, et il se révèle par des manifestations extérieures, ça veut dire des miracles, que ce n'est pas vraiment une vraie révélation de Dieu, il se révèle par des actes. Non logique, et grâce à ça, les humains, ils peuvent comprendre, voilà, ils voient des choses impossibles, et ils se révèlent. Ensuite, au moment des dons de la Torah, ça, c'était la vraie révélation. Chaque sujet ici, il faut expliquer, en tout cas. Et donc, alors, c'était une révélation où le peuple, et en vérité, tout le monde, sentit cette révélation divine. Et le but, c'est même au moment où cette révélation divine était pour ce moment. Après, elle ne va pas continuer parce que le monde, il reste un monde avec son caractéristique, ça veut dire qu'il reste avec sa nature. Il reste un monde qui cache la lumière, il reste un monde qui cache la divinité. Et notre but, c'est amener, à partir du moment où on a vu, à partir du moment où on a compris, et on utilise ça. On continue à utiliser ça parce que c'est aussi logique, la croyance doit être logique. À partir de là, même les moments où on ne voit pas, où on ne comprend pas, et on a même des questions, on utilise pour le moment, on utilise ce qu'on a vu, ce qu'on a compris, même pour le moment de faiblesse. Et ça, c'était tout le système aussi lorsqu'il y avait le temple. Alors, il y avait 3 fois par an que les Juifs et aussi les autres. Ils sont venus en Égypte, dans le temple, et là, ils ont été aspirés par la divinité, par la compréhension et tout ce qui est lié avec ça. Et ensuite, même lorsqu'ils ont rentré chez eux, ça veut dire dans une situation où on ne voit pas, où il faut travailler pour comprendre, mais à ce moment-là, ils ont gardé la foi. Donc, ce qui se passe dans notre paracha, c'est qu'elle s'appelle Kitissa, on va revenir. Kitissa, ça veut dire compter, mais ça veut dire aussi élévation. Alors, est-ce que notre paracha, elle va avec la notion d'élévation? Alors, c'est vrai que dans notre paracha, on parle beaucoup de choses. Tout d'abord, on parle de cette loi, qu'il faut compter le peuple d'Israël par les demi-shekels. En fait, demi-shekel, c'est une petite pièce. Et qui devrait chacun donner. Et comme ça, ils vont être comptés, mais comme ça aussi, ils vont participer à l'œuvre du temple, au sacrifice, etc. Mais après, on parle d'autres choses. qui sont liés avec la construction du temple, qui va le faire, les sages, et on parle de Shabbat, et ensuite la Torah nous raconte, puisqu'on est à la suite de donner la Torah, et ensuite que Moshe, il est resté 40 jours et 40 nuits sur le Mont Sinaï, il est marqué qu'à la fin de cette période, Dieu il a donné à Moshe l'étape de la loi. Et la Torah nous dit qu'est-ce que c'était l'étape de la loi. Ça veut dire, elle nous donne quelques éléments magnifiques, que cette étape de la loi, c'était écrit par la main de Dieu, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Et ils ont été, il y avait quelque part, c'était un porteur de choses non naturelles, comme l'idée qu'ils ont été gravés d'un côté et l'autre, et pourtant, le milieu des lettres restait au milieu. Il y a d'autres miracles qui sont marqués sur ça. L'explication pourquoi des miracles, parce que justement c'est le lien entre nature et non-nature, on va continuer. Donc la Torah nous raconte comment ils ont été ces tables de la loi qui représentaient Dieu dans le matériel d'une façon visible. Et ensuite la Torah nous dit ces drames. Ces drames, c'est que Moïse devrait rentrer au bout de 40 jours, mais les 40 jours sont passés et il n'est pas venu. Donc ils ont commencé à dire certainement qu'il est mort. Donc alors à ce moment-là, il faut chercher une autre divinité. Alors encore une fois, expliquer les notions de divinité, ce n'est pas le moment. Parce qu'aujourd'hui, tout d'abord dans notre esprit aujourd'hui, c'est difficile à comprendre l'horlogique de l'époque. Et pourtant, il y avait des gens intelligents qui pratiquaient ça, même si c'est interdit chez nous. Mais il y avait des gens intelligents, il faudrait expliquer pourquoi ce n'est pas bon. En tout cas, la Torah représente ça comme quelqu'un qui est très faible d'esprit. Ça veut dire qu'il change du jour au lendemain. Il a tous les éléments à utiliser, là d'un coup il change, comme quelqu'un qui change, il n'est pas fidèle. À un moment, il est fidèle pendant un certain temps, et là, une petite faiblesse, d'un coup, il n'y a plus de fidélité. En tout cas, la Torah, elle représente comme ça cette idée, même si il y a pas mal de choses à expliquer ici. Donc, alors, l'idolâtrie, après tout ce qu'ils ont vu, est pour une petite retard de Moïse. Il est retardé d'un jour, et à partir de là, tout s'écroule. Donc, ça, c'est considéré ici comme une grande, grande faute, et il avait la conséquence qui était très grave. D'ailleurs, il faut dire qu'en vérité, Moïse, il n'était pas en retard. C'est seulement eux, ils se sont trompés dans le compte de 40 jours. Est-ce qu'il faudrait compter la nuit d'avant? Il ne faudrait pas compter. Il y a tout un calcul. Et d'ailleurs, c'est intéressant que souvent on trouve cette idée, on vient de Pourim. Pourim aussi, le problème de Pourim est arrivé après, puisqu'il devrait rester en exil dans cette région perse Babylone. Il devrait rester là-bas en exil au dehors d'Israël pendant 70 ans. Et les 70 ans sont passés et pourtant rien n'est passé. Donc alors, certains décidaient que ça ne va jamais arriver, cette libération. Et Achashverosh, donc le roi, s'est permis de faire et utiliser des choses qu'il ne devrait pas. Et à partir de là, arrive toute l'histoire de Pourim. Donc encore une fois, on trouve la même chose, une erreur dans le calcul, puisque quand c'était prévu 70 ans, c'était 70 ans. Et dans notre cas, dans la paracha, c'était prévu 40 jours, donc c'était 40 jours seulement qu'il faut savoir, il faudrait savoir calculer. Donc alors, la Torah nous raconte ce drame, et que finalement, Moshe, il est toujours sur le Mont Sinaï, il n'est pas au courant de ce qui se passe en bas. Et Dieu, il annonce, il dit, tu peux descendre au niveau aussi spirituel de ton niveau. Tout ce que tu as, c'est pour eux. Mais si eux, ils ne sont plus là, donc ils ne suivent pas, alors toi aussi, tu n'as pas raison de garder tous ces niveaux spirituels que tu as eu. Et Moshe, il prie pour le peuple d'Israël, c'est une prière intéressante. Là, il y a encore quelque chose, toutes les notions de la prière se trouvent ici. Qu'est-ce que ça veut dire prier? Dieu, il n'est pas au courant, on essaye d'expliquer à Dieu la situation pour qu'il change, qu'est-ce que ça veut dire. Alors là aussi, c'est un sujet, mais ici, il est marqué dans cette paracha, Hanichali. Donc Dieu, il dit à Moshe, il annonce ce qui se passe, il dit ce qu'il a l'intention de faire, et pourtant, il dit, laisse-moi faire. que ça veut dire que Dieu, il demande à Moïse, à un homme, laisse-moi faire. Donc, Moïse, il a compris qu'il peut ne pas laisser faire. Même si il est quand même un être humain, que Dieu lui dit, laisse-moi. Donc, à partir de là, on peut comprendre qu'on a une autre possibilité. Et c'est ça un petit peu la base de la prière. Prier, même quand on a l'impression que tout est perdu. Alors, on va revenir à notre sujet. Il y a donc Moïse qui prie, mais toujours, il ne voit pas encore la gravité de la chose. Il descend quand même avec l'étape de la loi pour l'ordonner. Mais lorsqu'il voit la vérité, ce qui se passe, comment certaines personnes, c'était à la base des gens qui se convertis par Moïse, après la sortie de l'Égypte, ou avant, ou pour, à l'occasion de la sortie de l'Égypte, c'est eux qui ont fait... ils ont été très proches des notions idolâtres, et là, une fois qu'il y avait une petite faiblesse, ils ont eu cette idée, et ils ont entraîné avec eux les autres de la communauté. Donc, Moïse, il casse l'étape de la loi. Alors aussi, c'est un sujet, pourquoi casser, à quoi ça sert, etc. Mais en tout cas, comme ça, la Torah nous raconte. Et il descend, il dit, il explique, il pose des questions, et il y a même des conséquences graves que la Torah nous raconte. Et ensuite, il remonte sur le mont Sinaï pour prier. Là-bas, il reste 40 jours et 40 nuits. On n'a pas beaucoup de détails ici, mais on a plutôt des détails dans la paracha Ekev, que c'est vers la fin de la Torah, comment il répète. Et là-bas, il répète d'une autre manière. Il répète avec un autre ordre, et donc il nous explique une autre face de cette histoire. Et ensuite, à la fin de ces 40 jours, il arrive à avoir le pardon relatif de Dieu, mais ce n'était pas encore complet. Dieu lui demande de descendre, de préparer lui-même les tables que Dieu il va écrire dessus. Effectivement, c'est ça que Moïse il fait. Il descend, c'est lui cette fois-ci qui prépare les tables de la loi, et Dieu il écrit dessus, et finalement la Torah nous raconte ce qui s'est passé au 40e jour de cette troisième fois. Donc il n'est pas marqué clairement, mais c'est comme ça que ce qu'explique la Torah, elle explique. Il y avait trois fois 40 jours, donc cette fois-ci, et à la fin de cette période, la situation a carrément changé, et non seulement que Dieu il a pardonné, comme parfois on pardonne, ok, je te pardonne, mais on n'est plus amis quelque part, non. Et l'amitié, l'amour, elle se double à tel point que le table de la loi, même si c'est à peu près le même table de la loi, mais il porte les doubles des choses. Et là aussi, il faut expliquer ça à l'occasion, si Dieu veut. Donc alors, elle, on explique que même lorsque mon chéri est descendu cette fois-ci, ses visages étaient tellement rayonnés que c'était une lumière que les Juifs n'ont pas pu supporter, comme la Torah nous raconte des détails. Donc alors, dans cette paracha, on a plusieurs choses. On a, lorsque tout allait bien, ce qu'on appelle parfois des tzadikim, des gens justes, à l'époque, le peuple, chacun parmi le peuple était quelqu'un de juste. Et après, la Torah nous raconte, dans la même histoire, la Torah ne fait pas les différences, ça a duré quand même un certain temps. La Torah nous raconte comme, ensuite comment c'était la catastrophe, comment tout s'écroule. Et la Torah nous raconte à la suite, comme une suite, comment les choses ont été réparées, mais d'une façon extraordinaire. Non seulement réparées, mais quelque part, on a dépassé le niveau. Donc si à l'époque on était d'un certain niveau spirituel, et donc aussi matériel, alors cette fois-ci, après la faute et sa réparation, non seulement qu'on arrivait à réparer, mais on a arrivé à un niveau plus élevé, d'une certaine manière, de ce qui s'est passé à l'époque. Donc alors, la Torah met tout dans le même panier, les problèmes, tout d'abord, avant problème, les problèmes et la solution. Pourquoi la Torah elle les met tout en même temps? C'est pour nous montrer une autre vision de la faute ou bien de tout problème. Ça veut dire quelque part, Dieu qui a créé le monde, Dieu qui nous a donné des devoirs, il savait qui nous sommes et à quoi on ressemble. C'est comme si on peut donner un exemple. Il y a parfois les parents qui espèrent des choses de leurs enfants. Et finalement, dans la réalité des choses, ils ne suivent pas tout à fait leur chemin. Alors à ce moment-là, ça peut être une catastrophe à leurs yeux, mais finalement, avec le temps, ou bien avec si les guides l'enfant, ou bien par de différentes choses, l'enfant lui-même, il comprend. Donc il y a une catastrophe qui arrive, il comprend finalement à cause ou grâce à cette catastrophe pourquoi ça va pas, et finalement c'est lui-même qui va prendre son chemin, mais c'est pas parce qu'on lui a demandé seulement, parce que lui il a compris. Donc alors, le premier niveau, c'est quelqu'un qui le fait, mais c'est pas vraiment lui. Il est influencé par ce qu'on lui dit, il le fait malgré lui. Et après, il y a une catastrophe. Après, il fait puisque c'est lui. Donc à ce moment-là, on est dans un niveau beaucoup plus élevé. Et dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire de la vie, on trouve cette notion. Là, dans cette sikha, c'est le rabbi qui parlait de ça dans cet discours, il a dit qu'il a lié ça avec les trois niveaux de lettres hébraïques. Aleph, Bet, Gimel. Aleph, c'est alphabet. Gimel, c'est la troisième lettre hébraïque. Aleph, Bet, Gimel. Aleph représente l'idée originale, originaire, ce que on a espéré de cette personne, de cet enfant, de ce qu'on espère, comment on voit parfois la chose avant coup. Et ensuite, il y a la réalité des choses. Une fois qu'on est dedans, il y a la réalité des choses. À ce moment-là, très souvent, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut même arriver au drame, parce que la façon comment j'ai vu avant, la façon comment je pratique maintenant, c'est différent. Ça, c'est le petit coup qu'on a dans notre vie. On a un projet, et finalement, lorsqu'on essaye de mettre ces projets en réalité, en activité, parfois, et très souvent, ça ne marche pas. Et donc, c'est vrai que j'imaginais les choses, mais la pratique nous montre une autre chose. Et finalement, j'arrivais à faire ces projets, peut-être avec d'autres, avec un changement, mais cette fois-ci, c'est après l'expérience. Après l'expérience de l'échec, on arrive à monter encore plus haut. Donc ça, c'est une vision très, très générale de notre vie. L'échec, selon ça, fait partie de la réussite. Donc c'est ça la vision que la Torah veut nous dire. Ça veut dire qu'on souhaite à tout le monde de ne pas arriver à l'échec. Il faut éviter au maximum l'échec. Mais il faut voir s'il y a un échec. Il faut voir que l'échec, elle sert à quelque chose de positive. Pourquoi? Parce que avant l'échec, j'ai fait les choses, mais j'étais pas réaliste, j'étais pas terrestre. Ou bien quand on parle de la vie spirituelle, il y avait ce que je devrais faire et ce que je suis. Donc c'était pas les mêmes personnes. Et même si que normalement la base du judaïsme, on fait ce qu'on te dit, même si tu comprends pas. Mais le but du judaïsme, c'est finalement qu'on fait parce que je comprends. Ça veut dire, c'est pas les causes, mais c'est quelque chose de plus. Ça veut dire que lorsque, non seulement que je fais parce qu'il faut faire, je fais aussi parce que je comprends. Alors à ce moment-là, ça fait partie de moi-même et c'est un niveau beaucoup plus élevé. Et ça, c'est une vision très générale de notre monde en général, qu'il y a le monde vu par Dieu dans la Torah, comment Dieu regarde le monde. Maintenant, puisque Dieu nous a donné le libre arbitre, alors finalement, très souvent, ça marche pas comme lui, il voulait, même si que lui-même, il a donné cette libre arbitre, donc il nous a donné cette possibilité. C'est un sujet aussi large qu'il faut développer. Mais ensuite, finalement, le but, c'est lorsque l'homme, en général, et l'humanité en général, après tout ce qui s'est passé, ils vont comprendre le message. Alors, à ce moment-là, le monde va être bien, pas parce qu'il faut, parce que c'est comme ça, parce qu'il a compris. Donc alors, nous, on sait qu'on est aujourd'hui dans une période très, très difficile de tous les côtés, mais le but, c'est que le monde, malheureusement, parfois on comprend par le long schéma, peut-être terminer avec une petite histoire talmudique. Le Talmud nous raconte qu'il y avait un sage qui allait à Jérusalem. Donc il était sur le chemin de Jérusalem, il était tout proche. Et il a demandé, il avait un enfant à côté qui était sur le carrefour. Alors, il demandait à l'enfant, c'était un enfant de Jérusalem, qu'on disait que les enfants de Jérusalem sont extrêmement intelligents. Donc, il a demandé à cet enfant, dis-moi, c'est quoi le chemin pour Jérusalem? Alors, il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Le chemin court qui est long ou le chemin long qui est court? Ah, déjà, ça commence. On n'a jamais. On ne donne pas une réponse claire. Court qui est long, long qui est court. Alors, il n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Il dit, cours, cours, le chemin court, le plus court, donne-moi. Donc, il a dit, va par là. Il va, mais le chemin est très compliqué. Et il y a beaucoup. Il va, aussitôt, il va. Déjà, Jérusalem, il y a des murs, il y a des choses, c'est impraticable ce chemin. Donc, il revient vers l'enfant et lui demande, mais pourquoi tu m'as dit de partir par là? C'est impossible. Alors il dit, mais je vous ai dit bien, est-ce que vous voulez le chemin court mais long? Oui, elle est courte, mais finalement c'est long. Ou bien vous voulez le chemin long mais court. Parfois le chemin long, alors si on peut traduire le chemin long, il est plus long, il y a encore quelques kilomètres à faire, mais c'est un chemin facile. Quelque part dans notre vie, il y a les deux notions. Il y a le chemin court, mais parfois il est long. Il est difficile. On n'arrive pas à suivre nous-mêmes ce qu'on veut. Dans tous les domaines de la vie, il y a des choses qu'on n'arrive pas à suivre. Et parfois par d'expérience, que parfois l'expérience n'est pas aussi magnifique que ça, mais si on a compris le message, là d'un coup, le chemin qui est long devient court. En tout cas, nous, on a passé dans notre histoire, un long chemin avec beaucoup de problèmes. On espère que maintenant c'est la bonne qu'on sait déjà, qu'on est à l'approche de Mashiach où il va amener, et le monde il va être, il va retrouver la paix, il va retrouver l'unité, il va retrouver tout ce que le monde manque. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.